Si le Seigneur m'a mis à cœur cette prédication, c'est certain, c'est que plusieurs parmi nous ne sont pas prêts. Si le Seigneur m'a mis à cœur ce qu'on va partager, c'est que le nom de plusieurs n'est pas inscrit ou n'est plus inscrit. On va faire plusieurs lectures. Je voudrais que vous les marquiez, si vous le pouvez, pour peut-être les méditer dans un deuxième temps, dans un culte personnel. Personne ne peut retenir tout ce qui sera dit, mais les textes, le Saint-Esprit pourra les utiliser pour parler à votre cœur. Nous allons lire 7 ou 8 textes, peut-être plus même. Prenons le temps, nous sommes sous le regard de Dieu. Le premier, c'est dans le livre des Proverbes. Je ne sais pas si vous vous êtes arrêté déjà sur le verset 32 du chapitre 1er. Mais on va lire le verset 29 et le verset 30 jusqu'au verset 32. Proverbes, chapitre 1er, verset 29. Proverbes, chapitre 1er, verset 29. Parce qu'ils ont haï la science, parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasiront de leurs propres conseils, et c'est ce verset qui nous préoccupe, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Deuxième lecture, Apocalypse chapitre 20, verset 11. Apocalypse chapitre 20. Un texte qui concerne le jugement dernier, où Jésus n'est plus assis comme aujourd'hui, actuellement sur le trône de la grâce, où il peut faire grâce. C'est pour ça que nous avons des réunions comme celle-ci. Ça sera terminé la grâce pour ceux qui l'auront rejeté. Ça sera un moment terrible, un jour de jugement pour tous ceux qui sont définis dans ce texte. Apocalypse 20, verset 11. Et je voudrais peut-être parler à ceux qui sont trop dans le doute. Ces choses-là vont arriver. Pour beaucoup, c'est un peu virtuel, ça se comprend. Mais mes frères et sœurs, c'est la vérité, ça va arriver. Apocalypse 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent rejetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, c'est une lettre adressée à l'église de Sardes. Je vous encouragerai d'ailleurs à relire chez vous ce que Dieu dit à cette église, parce que c'est une église qui justement dénombre des hommes et des femmes qui ont leur nom effacé. Et vous découvrirez vous-même, il y a des choses, je pourrais vous les dire, mais c'est bien que vous les découvriez aussi. Apocalypse chapitre 3, verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Torah. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Quelle grâce de savoir que quand on passera devant Jésus-Christ, Jésus ne sera pas notre juge, comme on vient de le lire pour ceux qui n'auront pas été inscrits, Jésus sera notre avocat. Ça vous rassure ? Oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 14, verset 9. C'est dans la deuxième partie de la grande tribulation, lorsque l'Antéchrist interviendra d'une manière furieuse contre Israël. Là, je vous assure, il ne fera pas bon vivre pour les chrétiens qui n'auront pas été enlevés. Je vous le dis. Je vous le dis. Apocalypse 14, verset 9. Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Cette affaire, les chrétiens sanctifiés ne connaîtront pas ces choses. Ils seront enlevés avant. Cette période est une période terrible. Croyez-moi, rien que par rapport à ça, ça vaut la peine de se préparer. Un autre texte, dans Colossiens au chapitre 2. Ça ne vous embête pas qu'on fasse plusieurs lectures ? Si ça embête quelqu'un, vous venez me voir à la fin. Colossiens chapitre 2, verset 13. Colossiens, chapitre 2, verset 13. Pardon. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, et il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. L'ennemi a été vaincu au calvaire. Et vous savez, cette semaine, je lis, vous savez, la Bible, et j'ai été perturbé par cette parole quand Jésus dit « Le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. » De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison. On doit avoir la victoire sur le diable. Que le Saint-Esprit vraiment puisse nous convaincre, mes frères et sœurs, de ces choses que nous croyons connaître par cœur. Dans Éphésiens, juste avant, au chapitre 1er, au verset 13 à 14, là aussi, nous avons une marque. Les chrétiens, ça ne se voit pas, c'est dans l'invisible. Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. Si les impies auront une marque que le diable leur imposera, les véritables chrétiens qui sont passés par la nouvelle naissance ont une marque sur eux. Éphésiens chapitre 1er, c'est cette marque d'ailleurs qui déterminera l'enlèvement. Qui fera que tous ces gens seront enlevés, séparés. Vous vous rendez compte, à un instant, sur 7 milliards 200 millions d'habitants qu'il y a sur la terre, Dieu sait exactement ceux qui ont la marque, ils seront enlevés. J'espère que vous l'avez. Éphésiens 1, verset 13, en lui, nous n'oublions jamais que tout ce que nous avons, nous l'avons en Jésus. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Il y a des choses, on ne les comprend pas, un gage, tout ça, qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, on a chanté un caillou blanc. Peut-être quelqu'un a dit, caillou blanc, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, un caillou blanc? Si nous savions ce que représente ce caillou blanc, je pense qu'on chanterait différemment les cantiques. Croyez-moi. C'est pas fini. Daniel, chapitre 12. C'est après les grands prophètes, hein, Ézéchiel, Daniel, chapitre 12. Daniel, chapitre 12, verset 1. Daniel, chapitre 12, verset 1er. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Vous avez compris, monsieur Olé? Vous avez entendu? Il est où, monsieur Olé? Ouais. Vous avez entendu? Chaque fois que je lis ce texte, je pense à vous. Ouais. Plusieurs de ceux qui dorment, tous les morts, il y a les morts en Christ, les morts sans Christ. Et un dernier texte, Luc 10. Luc chapitre 10, le Seigneur envoie les apôtres en mission et ils reviennent auprès de Jésus. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie ou dans les cieux. Amen. Le succès, c'est bien. Le résultat, c'est bien. Mais il y a quelque chose de supérieur au succès et au résultat, c'est de savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Vous savez, nous pouvons nous tromper. La Bible n'arrête pas de le dire. On l'a lu. La résistance des stupides. Vous avez vu ce que ça fait? Vous vous rappelez le verset? Les tu. La stupidité, le fait de ne pas écouter, de croire qu'on sait, de croire qu'on a assez entendu. Vous voyez, quand je vous disais ce verset, moi, il m'a percuté, mais toute la semaine. Pourtant, je l'ai lu mille fois. Vous voyez que le Saint-Esprit vous convaincra de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Ça veut dire qu'un chrétien doit avoir la victoire sur le diable. Combien de chrétiens en sont incapables parce qu'ils ne sont jamais au calvaire. Ils sont au calvaire, même pas, c'est une manière sentimentale. Mes frères et sœurs, nous devrions être sérieux avec la parole. Il y a trop de gens qui sont légers et qui s'imaginent que parce qu'ils vont au culte, leur nom est inscrit. Oui, votre nom est peut-être inscrit dans le registre de l'église. Toutes les églises ont des registres. Toutes les églises au monde ont des registres. Voilà, vous avez été baptisé, monsieur Delon. Monsieur Delon, vous avez été baptisé quand ? 10 décembre 2009, voilà, votre nom est inscrit, Madame Espèce, etc. Tous les gens qui ont pris le baptême par immersion ou dans d'autres églises ont leur nom inscrit dans un registre. Est-ce que parce que leur nom est inscrit dans le registre d'une église, ça certifie qu'ils sont sauvés? Eh bien sûr que non. Mais il y a des gens qui le pensent. Il y a des gens qui le pensent vraiment. L'Esprit de Dieu doit nous conduire. Lorsque nous lisons la parole, lorsque nous méditons un texte, il ne faut pas lire pour tranquilliser sa conscience. Il faut lire parce que l'Esprit de Dieu, comme on l'a lu, a quelque chose à dire. Ce que l'Esprit dit aux églises. En juillet 2016, le Saint-Esprit a quelque chose à dire à l'Église, aux églises, à chacun d'entre nous. Donc nous pouvons être stupides. Est-ce que c'est vrai? Il y a plein de chrétiens qui sont stupides, excusez-moi l'expression, j'utilise un mot biblique. La sécurité ou des insensés, la sécurité des insensés, les perd. Ils sont insensés comme ces vierges folles qui ne calculaient pas que c'est vraiment de la folie que de ne pas entretenir sa communion avec Dieu. C'est exactement le profil. Donc, dans l'évangile de Luc, on vient de lire ce texte, mais il y a plusieurs textes dans l'évangile où nous voyons quelque chose qui fait presque peur, c'est qu'il y a des gens qui sont désapprouvés de Dieu. Ils n'ont pas pu prouver qu'ils appartenaient à Dieu. Alors, on est dans Luc, il y en a un juste après. Luc chapitre 13. Ce sont des textes, mes frères et sœurs, il faut les prendre au sérieux. Quand je vois qu'il y a quelqu'un qui me disait un jour, mais c'est écrit qu'une fois. Vous savez que celui qui lit fasse attention. En plus, ce n'est pas vrai, c'est écrit deux fois. Mais que celui qui lit fasse attention. Mais si vous ne faites pas attention à ce que la Bible dit, vous vous mettez en danger de devenir insensé. C'est ce que Dieu dit. Luc chapitre 13, regardez. Quelqu'un pose une question au Seigneur. C'est une question, on se la pose aussi. Luc 13, verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? C'est pas une question, ça que vous êtes posé. Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ça, c'est la preuve, ce premier verbe, que c'est à nous de le faire. Dieu ne nous forcera jamais. La teneur de ma prédication peut être sévère ou tendre, ça n'a aucune importance. Dieu ne vous forcera pas. C'est vous qui vous efforcerez. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup, c'est terrible ça, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Pour moi, c'est une des prophéties les plus terribles du Nouveau Testament. Quand le maître de la maison, le Seigneur, se sera levé et aura fermé la porte et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il y a plusieurs textes comme ça, adressés à des chrétiens, adressés à des serviteurs de Dieu, adressés à des hommes qui ont reçu certains dons, à savoir même des gens qui prophétisent, des gens qui guérissent les malades. Mais nous avons guéri des malades en ton nom. Nous avons imposé les malades. Les mains aux malades, ils ont été guéris. Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. C'est une parole terrible. C'est terrible. Exclu de cette bénédiction, exclu de la faveur de Dieu pour ne pas avoir pu prouver son appartenance à Jésus. Retirez-vous de moi. C'est terrible ça. Des gens qui toute leur vie dans les églises auront entendu « Venez à moi » comme ce matin. « Venez à moi, venez à moi. » On l'aura dit d'une façon ou d'une autre et s'entendre dire, pas par un pasteur, mais par le grand souverain pasteur, « Retire-toi de moi. » Mais ça va être... L'enfer pour certains sera terrible. Parce qu'ils n'ont pas été sérieux. C'est des insensés. Et on pourrait prendre ces textes. Je vous les donne pour ceux qui méditent. Bon, Luc 13, on l'a vu. Matthieu 7, Matthieu 22 et Matthieu 25. Des gens qui sont exclus, pas capables de prouver qu'ils appartiennent à Dieu. Et c'est ce qu'on voit. Ce sont des choses solennelles et les gens ne sont pas sérieux. Les gens sont là dans les églises, ils chantent, ils dansent, ils font la fête. Mais moi, mes frères et sœurs, ce n'est pas le moment de faire la fête. C'est vrai que s'il y en a qui peuvent la faire, ce sont ceux qui sont en communion avec Dieu. Qui peut avoir la joie aujourd'hui? Sérieusement, répondez-moi, qui sur la terre aujourd'hui peut avoir une vraie joie? Ce sont les chrétiens qui sont en communion avec Dieu. Eux seuls. Ce n'est pas le sujet. Vous rappelez que, je prends juste un exemple, parce qu'il faut quand même aider les gens. Vous rappelez Belshazzar, qui faisait le malin, monsieur était roi, donc il pensait qu'il faisait ce qu'il voulait.
Là, être roi dans la Bible, si vous voulez, c'est ça. Je fais ce que je veux. Ce n'est pas lui qui va me. Mes frères et sœurs, votre vie, notre vie, elle ne nous appartient pas. Vous croyez qu'elle vous appartient ? Parce que vous êtes jeune, parce que vous avez la santé, eh bien, vous êtes insensé. Votre vie ne vous appartient pas. Oui, c'est écrit ou c'est pas écrit ? Je l'ai inventé pour mettre de la valeur dans la prédication, ou c'est écrit dans la Bible ? C'est écrit, mes frères et sœurs. Vous rappelez Belshazzar ? Il a fait le malin, il a commencé à boire, et quand on boit, il y a toujours un truc qui s'aggrave. Il a fait venir les vases qui avaient été volés dans la maison de Dieu. Et ça, je peux vous dire qu'à un moment donné, ou même si Dieu n'intervient pas, il y a un moment où il interviendra. Et il est intervenu, et vous savez ce qui s'est passé. Vous le lirez dans Daniel, je crois que c'est au chapitre 5, si je ne me trompe pas. Tu n'as pas humilié ton cœur, lui a dit Dieu. Et pourtant, tu savais toutes ces choses. Et voilà. Le problème, il est là. C'est que monsieur pensait que, en plus, comme il était roi, et à l'époque, c'était des rois cruels, mauvais, qui avaient pouvoir de vie et de mort sur les gens, donc il se prenait un peu pour des dieux, puisqu'il faisait un signe, quelqu'un mourait, il faisait un signe, l'autre était épargné. Il se prenait vraiment pour des dieux, les gens, ces rois. Mais mes frères et sœurs, que l'on soit roi ou simple cochard, on va tous comparaître devant Dieu. Tous. Alors ton âme, est-ce que ton nom est inscrit dans le ciel ? Dans les églises, on se contente de croire en Dieu. On croit en Dieu. Et il y a des gens qui s'imaginent que Dieu est avec moi. Je crois en Dieu. Je sais qu'il est mort sur la croix. Et on s'arrête à cette repentance réelle ou superficielle. Beaucoup de chrétiens, vous le savez, ne le sont que de nom. Et moi, ma responsabilité, c'est de veiller sur vos âmes. Vous devez veiller sur votre âme. Est-ce que c'est écrit ? Veille sur ton âme. Est-ce que c'est écrit ? Veille sur ton âme attentivement tous les jours de ta vie. Vous êtes d'accord ? Mais est-ce que les pasteurs doivent veiller sur les âmes ? Est-ce que c'est écrit ? Je t'exhorte devant Dieu, qui doit juger les vivants et les morts. Je t'exhorte, reprends, censure, exhorte. C'est écrit ? Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va passer devant Dieu. Parce que notre âme ne nous appartient pas. Comment est l'état de votre âme ? Comment est l'état de votre piété ? Est-ce que vous vous contentez juste de croire en Dieu et de faire votre propre volonté ? Combien sont satisfaits d'une croyance superficielle ? Ils vont dans l'église, je caricature, ils vont à l'église le dimanche matin et ils ressortent et ils attendent le prochain sermon le dimanche d'après. Tu exagères ? Et ils ne font pas ce que Dieu leur demande. Ils sont en, j'allais dire un mot peut-être un peu fort, mais je pense qu'il est juste. Ils sont en captivité, encore en Égypte. Ils sont bloqués en dehors de Dieu, du plan de Dieu. Un sermon, ça doit nous amener à dire, voilà, j'ai entendu la voix de Dieu, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré ma stupidité. Oui, je suis stupide. À des moments, il faut le dire. C'est pas choquant que quelqu'un dise, oui, honnêtement, je suis stupide, j'attends le prochain sermon dimanche en espérant que le pasteur sera en forme avec un sermon qui me fera du bien. Mais mes frères et sœurs, c'est vous qui n'allez pas bien. Vous n'avez pas besoin du prochain sermon dimanche prochain parce que vous ne savez pas si vous arriverez dimanche prochain. Vous ne le savez pas. Et les gens sont là, même ce qu'on entendait avant dans d'autres milieux, moi je n'abandonnerai pas la religion de mes parents. Vous l'avez entendu ça ? Vous l'avez jamais entendu ? Eh bien, on l'entend dans nos églises. Ah ben moi, je n'abandonnerai pas la religion de mes pères. Mais le problème, ce n'est pas que vous ayez la religion de vos parents. Et si vos parents, ils avaient une religion superficielle ? Et si vos parents, ils vivaient dans le péché ? Vous allez faire comme vos parents ? Vous allez suivre des gens qui vont aller à l'enfer ? On n'est pas là pour se poser la question de quelle religion êtes-vous ? De quelle religion ? C'est laquelle ? Il n'y a aucune bonne religion. Le problème, ce n'est pas la religion que vous avez. Le problème, c'est la question que je nous pose ce matin. Votre nom est-il inscrit dans le livre de vie ? Ça, c'est mon devoir. Que vous soyez catholique, protestant, baptiste, libriste, pentecôtiste, moi, ça m'est égal. Ça m'est égal entièrement. Mais la question solennelle est celle-ci. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie ? Comprenez que c'est plus sérieux que d'appartenir à une église. C'est beaucoup plus sérieux. Un jour, votre âme vous sera redemandée. On est dans Luc, juste avant. Luc 12, regardez, vous connaissez cette parabole ? Quelqu'un qui écoutait Jésus prêcher, franchement, il n'a pas été aidé ce gars. Il n'était pas aidé. Il a interrompu Jésus en pleine prédication pour un problème d'héritage. C'était vraiment pas fin. Hein. Mais Dieu le permet. Dieu a permis, c'est une chose qui nous étonne, moi c'est un truc que je n'aurais jamais fait. Mais regardez, Luc 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître !» Vous voyez, il n'avait pas honte. « Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Vous voyez ? Alors regardez Jésus. Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge. » Parce que là, quand il parlait, il était en tant que sauveur. Un jour, il sera le juge, quand même. « Ou pour faire vos partages. » Et il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Je regarde les yeux du gars, moi, en ce moment, qui est en train d'écouter la réponse. « Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ?»« Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, » vous voyez, comme si notre âme nous appartenait, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ?» Mes frères et sœurs, il n'y a pas de mal à prospérer dans une activité lucrative. Il n'y a pas de mal. Si vous prospérez dans votre commerce, c'est très bien. Si vous prospérez moins, ce n'est pas grave. Mais la question, elle est là. Votre âme, notre âme, nous sera redemandée. Vous le comprenez, ça? En parlant de livres, sur ton livre sont écrits un autre livre. Tous les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. C'est écrit? Psaume 139. Sur ton livre, il y a plein de livres au ciel. Je ne sais pas comment ils sont, s'ils ressemblent à un autre, je m'étonnerai. Mais il y a plein de livres. Sont inscrits, vous voyez? Nous, on est là. Moi, en ce moment, je suis un petit peu questionné. On me questionne par rapport à la façon dont certaines personnes meurent suite à ce qui s'est passé à Nice. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Comment Dieu va-t-il me reprendre ? Après tout, on m'a posé des questions ces temps-ci. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous dépassent. Oui ou non ? Il y a des choses qui nous interpellent. Tiens, moi j'ai reçu un mail d'une dame chrétienne de Nice, qui avait son père, qui ne savait plus où était son père à la suite de cet acte. Et son père est décédé. Le matin, elle avait vraiment pu lui parler du Seigneur. En fait, je vous résume, mais il s'est passé vraiment quelque chose. Et cette femme, bien sûr, avait besoin d'une réponse. Mon père est décédé dans les attentats. D'accord. Alors d'abord, on va lire un texte. Luc, chapitre 13. Regardez bien, parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. On va le lire, ce texte. Luc 13, verset 1er. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui est arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous réalisez? Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Regardez ce qu'il ajoute. « Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. » Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous voyez, une tour, paf, qui tombe sur 18 personnes. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'elles ont fait, ces 18 personnes? Oui. Et Jean-Baptiste, l'homme catalogué par Jésus comme étant le plus grand homme sur la terre. Vous avez vu comment il est mort? À cause d'un homme complètement malade, pervers. Il lui a fait couper la tête, vous savez l'histoire. Il y en a qui ont dû dire, mais c'est pas possible, mais pourquoi il est mort comme ça? Vous avez vu comment il est mort, Jean-Baptiste? Le problème, ce n'est pas la façon dont on va mourir, parce que Dieu peut nous reprendre n'importe comment. On vient de le lire, le peu que je viens de vous dire vous fait bien comprendre qu'à n'importe quel moment et de n'importe quelle manière, notre âme peut nous être redemandée. Mais le problème, parce qu'il y a des choses qui... Est-ce que Dieu peut nous... Bien sûr, ce qui s'est passé au Bataclan... Vous avez vu ce qui s'est passé au Bataclan? Non, mais si vous êtes au courant, Je pense, on m'a dit, moi, d'une manière formelle, qu'il y avait deux chrétiens au Bataclan qui sont morts. Chrétiens. Je crois, écoutez-moi bien, que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je crois également que Dieu peut nous reprendre comme il le veut. Jean-Baptiste en est témoin. Mais ce que je vous demande, frères et sœurs, si vous avez une véritable piété, c'est de demander au Saint-Esprit de nous conduire. Est-ce que c'est malsain d'aller à un feu d'artifice? Moi, je ne vois pas le mal, franchement. Franchement. Donc, en conclusion, mes frères et sœurs, je crois qu'il faut demander au Saint-Esprit de nous conduire. Le matin, ce n'est pas de la superstition. Il y en a pour qui c'est de la superstition. Nous nous plaçons sous ton sang précieux. Ils le font parce qu'on leur a dit, fais-le. Mais ce n'est pas de la foi. Mais je crois qu'il y a un acte de foi de placer sa maison sous le sang du Seigneur. De se placer sa famille, ses enfants, ses petits-enfants sous le sang, mais vraiment par la foi. Et je crois, mes frères et sœurs, que dans ces temps difficiles qui vont s'aggraver, nous ne devons pas avoir peur, ne crains pas, dit le Seigneur. Ce qui est important, c'est de dire, moi je veux rester à l'abri du Tout-Puissant. C'est sérieux cette affaire. Pourquoi? Je reviens à ma prédication. Parce que notre âme nous sera recommandée. Donc la façon dont on va mourir, ce n'est pas trop grave. Si vous appreniez que j'ai été dans un magasin et qu'il y a eu un attentat, tiens, le pasteur de l'église, il est mort d'une balle d'un terroriste, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez? Enfin, on va avoir un autre pasteur. Non? C'est ça que... Non, Claudine, je t'ai entendu penser ça. Demandons à Dieu qui nous dirige, parce qu'on a le droit de se détendre, mais franchement, je pense quand même qu'il faut veiller, que quand même notre détente soit saine. Quand même. Donc, ce n'est pas ce que les autres pensent, ce n'est pas ce que les autres disent qui est important. Oh, il est passé par l'église, monsieur Dupont. Ah oui, il est passé par l'église. Ah, il ira au ciel. On l'a entendu ça, mais vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. Mes frères et sœurs, même si on ne passe pas par l'église, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que je me pose la question, moi qui vais prendre le pain et le vin dans quelques instants, est-ce que je suis réconcilié avec le Sauveur du monde? Est-ce que je peux dire, oui, j'appartiens à Jésus, j'appartiens pas à la dénomination de, à l'église de, au pasteur de? Non, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je suis vraiment soucieux d'avoir une véritable piété. Sinon, vous l'avez lu, ceux qui ne veillent pas, mais dites-le, ne soyons pas insensés, ceux qui ne veillent pas auront leur nom effacé. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le Seigneur du ciel et de la terre. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Il faut être sérieux. Oh, si je ne lis pas la Bible, vous allez... Mes frères et sœurs, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Prenez du temps. C'est doit être une bénédiction quand même de lire la lettre de Dieu. Quand même. L'autre jour à la poste, j'ai rencontré une jeune fille. Et quand j'ai discuté avec elle, j'ai vu qu'elle était rétrograde. Je lui ai dit, mademoiselle, vous lisez toujours votre Bible? Elle me dit, oui, monsieur Gaud, je lis toujours ma Bible. Et comment vous vivez? Et je dis, je vis avec un jeune homme, on n'est pas mariés. Et bien, j'ai dit, vous n'êtes pas prête. Si Jésus revient, vous allez voir que ça va aller mal. Oh, c'est difficile. J'ai dit, non, ce qui est difficile, c'est de vivre dans le péché. Ce n'est pas difficile de vivre dans la grâce. Si le diable a réussi à vous faire croire que c'est difficile de vivre dans la grâce, de vivre dans la sainteté, de vivre dans le pardon, eh bien là, je peux vous dire qu'on est vraiment des insensés, mes frères et sœurs. Oui, je suis un de ses enfants. Je peux dire Dieu est mon Père. Est-ce que vous pouvez le dire ce matin? Jésus-Christ est mon Père. Il est mon avocat. Parce que si vous ne vous convertissez pas, parce qu'il y en a plein, même ici dans l'Église, pas parce qu'on est là qu'il y en a qui sont... On est les meilleurs. Mes frères et sœurs, dans l'église de Saint-Agne, il y a des jeunes, des enfants, des ados, des rétrogrades, ils essaient de se mettre Dieu de leur côté. J'ai le temps. Non, vous n'avez pas le temps. Vous avez vu cet homme-là? Dit à notre frère de partager l'héritage. Mais lui s'imaginait que, bien sûr qu'il avait réalisé que Jésus pouvait tout, alors il a dû se dire, oh, j'ai un problème d'héritage, il va m'aider le Seigneur. Est-ce qu'il aurait pu l'aider? Mais bien sûr, mais même s'il avait réglé son problème d'héritage, ça ne servait à rien. Il faut que le gars, il se prépare à rencontrer Dieu. Oui, des livres seront ouverts. On n'y pense pas à ça. On est là, à Toulouse, demain il faudra aller au travail ou peut-être à autre chose. On n'y pense pas. On va se retrouver devant Dieu. En ce temps-là, on l'a lu dans Daniel, en ce temps-là, des livres seront ouverts. Il va y avoir un moment où des livres vont être ouverts. Paul le dit aux chrétiens de Corinthe, il faut que tous, nous comparissions devant le tribunal de Christ. Alors, est-ce que votre croyance, ça va? Est-ce que vous vous satisfaisez de votre croyance? Oh, moi, je suis catholique, moi, je suis pentecôtiste. Et alors, vous êtes pentecôtiste? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous vous êtes repenti, vraiment repenti? Ou est-ce que vous êtes toujours dans les regrets? Oh, je ne suis pas bien, je sais que je suis un pécheur, je sais que... Mes frères et sœurs, je ne vous demande pas de regretter. Jésus ne l'a pas dit, quand il a prêché au début, il n'a pas dit, soyez gentils. Il a dit, repentez-vous. Il y a des gens qui s'efforcent d'être gentils, on ne vous demande pas d'être gentils. Le Seigneur nous demande de passer par une profonde repentance, de venir au calvaire. Dieu, il ne veut pas de la croyance. Ça vous choque ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Est-ce que les démons y croient? Ouais, ils croient. Et vous savez, ça va très mal se passer pour eux. À tel point que même c'est nous qui allons les juger. C'est écrit? C'est écrit. Dieu n'est pas satisfait de la croyance. Mes frères et sœurs, nous sommes sous le regard de Dieu. Dieu n'est satisfait que par la piété, par la profondeur spirituelle. Je veux des racines. Je veux cette communion avec le Seigneur. Je veux vraiment prier mon Père qui est au ciel, que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est important pour vous? Combien de gens insultent Dieu? Je pense souvent à ce brigand qui était là, à côté de Jésus, à droite ou à gauche, je ne sais pas. On parle souvent du brigand repentant. Vous vous rappelez, c'est cet homme qui est parti au ciel le soir même, avec Jésus, qui a dû vivre des choses merveilleuses. Mais alors, vous rappelez l'autre? L'impie. On appelle un brigand le repentant, et l'autre on l'appelle l'impie. L'impie parce qu'il n'a pas voulu avoir une piété. Il a parlé à Jésus, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Luc 23. Lisez-le avec moi, ça vaut la peine quand même. S'il y a des gens qui prient, ils prient, ils s'imaginent qu'ils peuvent se permettre de dire à Dieu telle ou telle chose. Il y a plein de gens comme ça, il y a des millions de gens, certainement des milliards, des gens qui s'autorisent à donner des ordres à Dieu. Fais-moi gagner au loto. Ne riez pas, parce que je peux vous assurer que ça ne vous approchera pas de Dieu. Luc 23, 39, regardez la prière. Comment le Saint-Esprit l'énumère, cette prière? Comment il l'appelle, le Saint-Esprit? Luc 23, 39. L'un des malfaiteurs crucifiés, qu'est-ce qu'il fait? Comment s'est appelé? Il fait une requête. Ça aurait pu dire, fait une requête à Jésus. Oui? Oui ou non? L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Le Saint-Esprit a voulu que l'on sache que certaines requêtes sont des injures. Disant, n'es-tu pas le Christ? Je parle à laquelle il ne devait pas être peut-être très fort en voix. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais vous voyez quand même, il avait une idée derrière la tête. Vous voyez? C'est une injure. Quand on demande des choses que pour nous souvent. À quoi ça lui aurait servi qu'il descende? Est-ce que Jésus aurait pu le descendre à lui? Est-ce que Jésus aurait pu faire ce miracle pour montrer qu'il était tout puissant? Est-ce que Jésus aurait pu dire, je te descends? Et le gars, une seconde après, il est en bas, en pleine santé. Oui ou non? Ça aurait servi à quoi? Rien. Il y a des choses, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Et je vous en supplie, n'injuriez pas le Seigneur, n'injuriez pas le Sauveur du monde. Soyez soucieux de faire des prières respectueuses. Je ne parle pas d'avoir un vocabulaire achalandé. Je parle d'avoir un respect profond au calvaire. Ces choses-là nous seront révélées, mes frères et sœurs. Que de prières insultantes. Il y a des prières qui n'ont rien à voir avec la foi. Il faut des prières sérieuses. Moi, je suis attristé. Je vous le dis franchement, quand je vois la quantité de gens qui sont légers avec le Seigneur, ils vont dans les églises, et moi j'ai un article, je ne vous le lis pas, j'ai honte de vous le lire. Je l'ai dans mon cartable. Si vous voulez le lire, c'est un article sur les chrétiens et la pornographie. Je ne peux pas vous le lire. Je ne peux pas vous le lire. Mais je l'ai pris. Et si vous voulez le lire, vous le regarderez. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose de terrible. Il y aura des églises. Et je pèse mes mots, ce n'est pas une impression. Il y aura des églises. Si Jésus revient chercher l'église pendant le culte, il y a des églises entières qui se rendront compte de l'enlèvement après le culte. Ça va être terrible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de piété. Mes frères et sœurs, donnons au Seigneur vraiment une véritable piété. Ayons une véritable piété. Vous vous rendez compte, ces gens qui vont dire, mais tu étais dans nos rues. En plus, ils ont eu l'immense privilège de vivre dans la génération où Jésus était dans leur village. Vous vous rendez compte, les habitants de Capernaum, ils n'ont pas eu, franchement, de voir Jésus faire tout ce qu'il a fait à Capernaum. Vous avez vu tout ce que Jésus a fait à Capernaum? Et ces gens-là ont dit, mais tu as enseigné dans nos rues, tu as mangé dans ma maison. Je ne te connais pas. J'ai pris la Sainte Seine tous les dimanches à Sainte-Agne. Eh oui, ça ne suffit pas. Dieu veut de la piété. Alors on va se recueillir. Je vais demander à Monsieur de Dieu de chercher des frères pour distribuer la Sainte Seine. Mes frères et sœurs, Jésus est le Seigneur du ciel et de la terre. Il est le Tout-Puissant. Vous le croyez, ça? Il est Dieu. Celui qui le reniera, son Père le reniera. Celui qui confessera son nom, publiquement, tout à l'heure, vous allez vous lever. C'est une confession publique, même au-delà du baptême. Oui ou non? Vous allez vous lever devant Dieu. Vous prenez le pain et le vin, c'est quelque chose de solennel. Vous confessez le nom de Jésus. Celui-là, dit Jésus, vous il sera gardé. Je confesserai son nom, devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Quel drame! Oui, ne soyons pas stupides. Ne soyons pas enfermés dans cette pseudo-sécurité. La sécurité des insensés, les pères. Une vraie piété. Voilà ce que Dieu te demande, mon frère. Ton nom. On est con de se présenter devant Dieu, là. Ton nom n'y est pas. Mais ça va être affreux, mes frères et sœurs. Votre nom est-il inscrit dans le livre? Mes frères et sœurs, utilisons ce moment de sainte scène, de recueillement, pour répondre à cet appel. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le saint livre, le grand livre. Vous rendez compte, votre nom est inscrit dans le ciel. Ça vous réjouit, frères et sœurs? Prions quelques instants. Les enfants, les ados, tous ceux qui ne sont pas baptisés, repentez-vous et forcez-vous. Je n'ai pas, moi, à vous forcer. Je n'ai pas à le faire. Vous devez vous forcer. Efforcez-vous d'entrer. Efforcez-vous de passer par la porte. Elle est ouverte, mais le maître de la maison va se lever et il va la fermer, la porte. Notre Père qui est aux cieux, notre Sauveur, quelle grâce d'ouvrir le Saint-Livre. Quelle grâce de savoir que tu veux nous aider à demeurer en toi, à veiller, à développer cette piété. Seigneur, conduis-nous, garde-nous, Seigneur, dans nos déplacements. Garde-nous dans nos choix pour la détente. Seigneur, nous croyons à ta souveraineté, que pas un cheveu de notre tête ne peut se perdre. Tu comptes tout. Oui, Jésus, nous choisissons en cette matinée, devant ta face, de te faire entièrement confiance. Et nous choisissons de développer cette piété. Seigneur, s'il te plaît, donne cette soif à tous les chrétiens insensés. S'il te plaît, Seigneur, donne cette soif. Tu vois tous les chrétiens qui sont perdus, Seigneur, à cause de l'apostasie. Pardonne-nous, Seigneur. Et que dans cette église, puisque tu nous y as placés, nous puissions vivre dans une véritable piété. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen.